Alors à ce niveau-là, deux exceptions naturelles. Moi aussi, je vais employer ce terme au lieu de contrats qui ne vont cesser de se succéder. L'Europe est coincée par un Inland 6, une immense banquise au nord-ouest, et puis les glaciers qui couvrent naturellement les Alpes, mais généreusement, les Pyrénées sûrement. Et lorsque les interglaciaires ouvrent un peu les voies de l'Est, il y a un niveau d'eau qui monte. Et du même coup, une espèce de grand barrage d'eau qui relie la Méditerranée à la mer Noire, à la mer d'Azov, à la Caspienne. Ces premiers peuplements de l'Europe se sont trouvés de toute façon isolés par une barrière de glacier et derrière la barrière de glacier par une barrière d'eau. De telle manière que. En Europe, ce premier peuplement qui était identique à celui de l'Afrique et de l'Asie, ce premier peuplement a subi ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'Afrique de l'Est, une dérive. Il s'est trouvé isolé, il s'est trouvé dans une île. Et l'île européenne a fabriqué une dérive génétique. Pas seulement d'ailleurs avec les hommes, c'est pour ça que c'est intéressant à suivre. Il y a aussi des types particuliers. De rennes, des types particuliers de proboscidiens, etc. Cette dérive génétique, c'est Néandertal, hein, c'est l'homme de Néandertal, dont on n'a pas su que faire pendant bien longtemps, qu'on trouvait très vilain et qu'on ne voulait pas avoir dans la famille, ben c'est réussi. Il semble bien que ce soit en effet un type particulier. Et à Java, ça a été moins radical, mais tout de même. La montée des eaux interglaciaires a isolé Java. La baisse des eaux a relié certainement Java au continent au moins à quelques reprises. Mais les glaciations n'ont pas toutes eu la même intensité, si bien que Java a été en tout cas isolé, ça se voit dans la faune, dans les stégodontes par exemple, dans les proboscidiens. Et ça se voit dans les hommes, Java a été isolé au moins 1 300 000 ans, 1 500 000 ans, 1 500 000 d'années. Et là aussi, la forme humaine qui y était arrivée s'est développée de manière insulaire, de manière particulière, sous la forme d'une dérive génétique que j'appelle pithécanthrope, faute de l'appeler autrement. Mais c'est un petit peu le symétrique, on ne peut pas dire ça comme ça, mais. L'équivalent à l'Est de ce qui s'est passé en Europe avec Néandertal. Et puis, pour une raison mal expliquée, mais il y a peut-être une pression environnementale encore, mais autour de 50 000 ans, ça c'est un chiffre un peu facile à proposer pour rendre l'histoire cohérente et pour que ce soit facile à retenir, mais autour de 50 000 ans, disons. C'est cet homme qui était devenu moderne et qui se trouvait en Afrique et en Asie a eu un besoin, une pulsion, une envie de faire éclater ses frontières. Et à ce moment-là, il y avait donc bien trois hommes sur la Terre. Il y avait l'homme moderne à travers toute l'Afrique et toute l'Asie, sauf Java. Il y avait le Pithecanthrope à Java et il y avait Néandertal en Europe. Alors, 50 000 ans, l'homme fait éclater ses frontières. Et il passe en Amérique probablement à pied sec par le Bering. Il ne rencontre personne en Amérique, il peuple l'Amérique tranquillement, si j'ose dire. Il arrive en Australie probablement en radeau, parce qu'il y a un passage maritime obligé. Il ne rencontre personne en Australie, il s'installe en Australie sans problème. On parle de 60 000 ans pour l'Australie. On donne aussi des dates beaucoup plus importantes, mais qui ne sont pas vérifiées pour le moment. Et il pousse vers l'Indonésie, mais rencontre le Pithecanthrope. C'est celui que l'on appelle l'homme de Wajak, cet homme moderne. Mais peu importe, c'est l'homme moderne là-bas, c'est tout. Et à terme, le pithécanthrope s'éteint et Wajak occupe les lieux. Et il pousse vers l'Europe, et c'est celui que l'on appelle Cro-Magnon. Il rencontre Néandertal, il coexiste avec Néandertal longtemps, plusieurs millénaires sûrement. Et finalement, c'est Cro-Magnon qui va prévaloir, puisque Néandertal disparaît, et apparemment, on pourra en parler tout à l'heure, il n'y a pas eu d'interfécondité entre les deux, puisque les caractères typiquement néandertaliens, on ne les retrouve plus une fois les néandertaliens éteints. On peut parler d'extinction. Et d'où l'homogénéité de la population actuelle. Alors après cette mise en place, si je puis dire, de l'histoire humaine, et puis du peuplement de la Terre, je voudrais vous dire quelques mots sur ce à quoi peut servir ou peuvent servir la préhistoire et la paléontologie. J'y ai pensé un petit peu et j'ai pensé que ça servait d'abord à la connaissance. Et on pourrait s'arrêter là, quoi. Ça suffit largement. La connaissance, c'est déjà considérable. Et j'ai fait venir ce petit truc là. Moi j'aime bien les tableaux, mais il n'y a pas de tableau noir ici. Ah, il y en a un grand au Collège de France, parce que c'est bien. Ça fait un peu rétro, mais il se trouve que dans le grand amphi du Collège de France, un immense tableau, on n'arrive pas à le couvrir. Ça, c'est bien. Enfin, je vais vous raconter quelque chose quand même. Dans des fouilles que j'ai menées en Éthiopie, près d'Addis Abeba, avec Jean Chavaillon, dans un joli site qui s'appelle Melka Kontouré. Nous avons trouvé dans des couches très anciennes un homme fossile, qui est l'Homo habilis, mais peu importe, que l'on va appeler A. Et cet homme a une culture, a de très beaux outils, holdowayens, que j'appelle A. Holdowayens, c'est-à-dire fait essentiellement sur galets. Et puis, dans la couche au-dessus, c'est une série de niveaux fluviatiles, emboîtés, ce sont des terrasses. Et du coup, il y a des sols d'habitat en quantité. L'homme change. Il devient un Homo erectus déjà. Je l'appelle B. Et curieusement, la culture ne change pas. On trouve exactement la même, mais la même. On ne peut même pas parler d'Holdowayen évolué. Même culture. Ensuite, on trouve un homme qui est toujours erectus. Et ça y est, cette fois la culture bouge et elle devient B. Et puis, on trouve un homo qui est sapiens, hein, qu'on va appeler C. Et ce malheureux premier homo sapiens, il fait de la culture B. Ça ne progresse pas. La culture traîne les pieds, hein. Oh là là. Ensuite, l'homme est toujours C. Et ça y est, la culture, elle devient C. Et puis l'homme est toujours C, et la culture devient D, et puis l'homme est toujours C, c'est désespérant, et la culture devient E, c'est-à-dire que la culture s'envole. Alors, si vous voulez, ma démonstration, elle est toute simplette, hein, mais elle est un petit peu comme ça. Et ici, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que mon explication est la suivante. Ici, on est autour de 2,5 millions d'années, quelque chose comme ça. Et ici, on est en an 2000. Eh bien, pendant toute cette partie-là, la culture traîne. Et c'est l'homme, bien sûr, qui va se développer parce que on est un peu sur une lancée biologique, sur une lancée naturelle. Et la culture vient d'apparaître, donc elle se développe de manière discrète, de manière secrète, de manière confidentielle, mais elle ne s'en développe pas moins. Et puis à partir d'une certaine époque, c'est pas vieux, hein, c'est, enfin, peut-être que ça n'a aucun sens, mais c'est autour d'une centaine de milliers d'années seulement, la culture s'en va et l'homme reste ce qu'il est. C'est pas péjoratif, mais lui ne bouge plus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire que, comme chacun sait, aujourd'hui, on a perdu la plupart de nos instincts. Un de mes vieux patrons, qui s'appelait Pierre-Paul Grasset, me disait toujours: vous savez bien qu'on n'en a plus qu'un, c'est celui qui était sa mère. Alors je disais: monsieur le professeur, quand même, il me semble qu'on en a quelques autres, en tout cas moi. Il dit: oui, c'est entendu, c'est entendu. Et au contraire, on a développé un libre arbitre incontestable. Or, dans cette histoire qui est au fond l'histoire de la matière pensante, qui vient s'enraciner dans la matière vivante, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que la connaissance, sous la forme de la culture que vous voyez sur ce petit tableau, la connaissance, se développe à un point que c'est elle qui va faire réagir l'homme à la sollicitation du milieu, à la place de sa nature, à la place de son corps. On a un écran de savoir qui s'installe entre l'agression du milieu, la transformation de l'environnement, par exemple, et puis la réaction du corps. Exemple banal, vous êtes malade, bien malade, au lieu d'attendre pour voir si votre corps va bien réagir, je pense que vous aurez la sagesse d'aller voir le corps médical, celui-là, et que s'il vous prescrit un certain nombre de médications, vous allez les suivre, c'est-à-dire que par excellence, vous allez mettre un écran de savoir entre l'agression que vous aurez reçue et votre réponse. Et la réponse culturelle, la réponse du savoir, la réponse de la connaissance est évidemment beaucoup plus rapide que la réponse biologique qui elle, comme on l'a entendu hier, elle s'occupe surtout de défendre l'espèce et pas tellement l'individu. Donc, voilà ce qu'est la connaissance de la préhistoire et ce que la préhistoire nous apporte dans l'enrichissement de la connaissance et en même temps ce qu'elle nous apporte dans ce changement si important qu'il nous aveugle. Je veux dire que peu de préhistoriens se préoccupent du fait qu'à un bout de l'histoire, il y a des êtres qui ne sont qu'instincts. Je ne parle pas des mammifères, hein, ou des grands primates, il est évident que c'est bien plus compliqué que ça, mais les bactéries du bout de l'histoire sont quand même totalement instinctives, alors que de ce côté-ci de notre histoire, il y a quand même une certaine liberté, un certain libre arbitre chez l'homme dont il faut tenir compte. Alors par ailleurs, il est évident que la préhistoire nous apporte aussi, et ce n'est pas rien, la connaissance de notre épopée. L'épopée de l'homme, c'est une chose tout à fait extraordinaire, extraordinaire. Quand on voit la prise de conscience de la forme, peut-être des 3 millions et demi d'années, peut-être des 3 millions et demi d'années, au point pour les préhumains, pour certains préhumains ou même peut-être les premiers des hommes, d'avoir l'idée ou de l'avoir eu par accident, peu importe, de taper sur un caillou avec un autre pour changer la forme. Je trouve ça fantastique parce que ce brave bonhomme qui a fait ça la première fois, évidemment, il n'en a pas pris conscience de cette façon-là, mais le fait de prendre un caillou et taper sur un autre pour donner à cet autre caillou une forme qui va lui être profitable, c'est agir sur le monde. On ne fait rien d'autre depuis. C'est agir sur le monde. C'est la première fois qu'un animal a le culot de changer la forme du monde. Il change en l'occurrence la forme d'un simple caillou. Mais songez que Hélène Roche, qui est préhistorienne et que j'ai vue encore il y a quelques jours, a trouvé dans l'ouest du lac Turkana au Kenya un site de 2 millions 400 000 ans, bien daté, 2 millions 400 000 ans, avec des outils qui étaient restés sur place. Et ces outils, elle a pu les remonter. Alors les remonter, ça veut dire trouver un éclat, et puis un autre éclat avec un contact, et puis un contact, et puis un contact, et puis un contact. 50 parfois. 50 pièces ont été remontées pour aller de l'éclat au rognon ou au galet. C'est-à-dire qu'on peut faire en sens inverse tous les gestes de ces gens de 2 millions 400 000 ans. Tous les gestes qui sont des gestes déjà très raisonnés, qui sont des gestes qui montrent que une certaine maîtrise de la matière première est atteinte, et au point de tirer d'un caillou 50 éclats, dont certains sont sans doute des rebuts, mais dont d'autres vont être utilisés. Alors la notion de forme, moi, quand j'ai entendu dire parfois que l'art qui apparaît il y a 400 000 ans vient de nulle part. Quand même, la perception de la forme, elle est en main, en tête, dans l'humanité depuis bien longtemps. Alors l'histoire se poursuit et cette forme va se transformer, cette forme va se multiplier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'évolution de la technologie de la pierre, qui malheureusement est souvent la seule qui soit à notre portée, l'évolution de la technologie de la pierre, elle va dans le sens de l'amélioration de l'efficacité de l'outil, naturellement, et elle va dans le sens de la multiplication des types d'outils, donc multiplication des activités. Il y a deux choses, hein. La trousse d'outils de l'homme préhistorique est de plus en plus riche et ces outils sont de plus en plus performants. Alors là, il y a une histoire que j'aime beaucoup, que j'ai empruntée à André Leroy-Gourhan et que j'ai prolongée. C'est l'histoire c'est une manière de mesurer l'efficacité, le progrès de l'efficacité des pierres taillées. C'est très, très amusant. C'est évidemment grossier comme quantification, mais c'est drôle. Vous pesez des kilos de pierres taillées. C'est simple, hein? Vous avez une balance et puis vous pesez un kilo de pierres taillées. Et puis, évidemment, il faut que la pierre taillée soit, par exemple, uniquement de la quartzite ou uniquement du silex pour qu'il y ait à peu près les mêmes densités, les mêmes poids. Donc, un kilo de pierres taillées, et une fois que vous avez votre kilo de pierres taillées, vous allez mesurer la longueur des tranchants. Et puis additionner ces longueurs. Donc vous aurez un chiffre qui vous donnera une espèce d'indice d'efficacité de l'homme préhistorique. Alors 2 millions d'années, vous faites ça, et vous avez 10 cm de tranchant. C'est bien commencé, hein. 500 000 ans, vous pesez votre kilo de pierre taillée, vous avez 40 cm. Un peu plus, hein. Ça progresse. C'est l'époque des bifaces, c'est l'époque où la symétrie a été découverte, c'est l'époque où les pièces taillées sont à la fois asymétrie bifaciale et bilatérale. On est déjà dans l'esthétisme d'une certaine façon. 50 000 ans, kilo de pierre taillée, 200 cm. 20 000 ans, un kilo de pierre taillée, 2 000 cm. Là aussi, hein, on peut faire une superbe courbe exponentielle. Et alors pour s'amuser, 10 000 ans, mais c'est un peu triché parce que 10 000 ans, c'est le mésolithique, on n'est plus dans le paléolithique, on n'est pas encore dans le néolithique, on est dans des formes intermédiaires, on fabrique de tout petits outils à ce moment-là, mais qui sont montés en série. Donc sur un véritable outil, il y en a une dizaine parfois, pour faire des couteaux, pour faire des faucilles, pour faire des outils souvent agricoles. Mais on arrive à 7000 centimètres. Alors je raconte toujours une histoire vraie, toutes mes histoires sont vraies d'abord. Ce qui m'est arrivé à Lannion, en Bretagne, j'ai raconté cette histoire-là, et j'ai eu un auditeur charmant qui m'a écrit en me disant, voilà, j'ai acheté un kilo de lame de rasoir et je suis très déçu parce que je n'arrive qu'à 100, je sais pas, 100, au lieu de 70 mètres, c'était 113 mètres, quelque chose comme ça. Alors, j'ose espérer qu'il en a acheté un petit peu moins et qu'il a extrapolé, mais je ne sais pas, c'est pas du tout. Autrement, il en a pour toute la famille pendant un certain nombre de générations. Enfin, d'abord, ce n'était pas du silex, je crois. Il ne m'a pas donné le nom, le modèle de ces lames. Mais c'était amusant comme extrapolation. Alors donc, cette histoire est intéressante et elle nous montre, en tout cas sur le plan technologique, le progrès incontestable de cet homme qui est notre grand-père, notre arrière-grand-père, notre prédécesseur. Quand on aborde un autre aspect, par exemple celui de l'énergie, on en a parlé un petit peu hier, l'eau a dû être utilisée rapidement, mais en tout cas le feu est apparu de manière assez occasionnelle d'abord et de manière très discutée d'ailleurs. Mais par contre, à partir de 500 000 ans, aussi bien au bout de l'Asie, par exemple à Choukoutien, le site de l'homme de Pékin, qu'au bout de l'Europe, dans un site breton qui se trouve près de, je ne sais plus, le Manet, ah, je vous le dirai, en tout cas 500 000 ans aussi, on a du feu, on a des foyers à l'intérieur de foyers construits. Les pierres entourent la zone du feu, donc le feu est fabriqué, il est maîtrisé, il est tout à fait en place, et c'est évidemment une découverte extraordinaire. D'ailleurs, sur le plan social, il y a une chose intéressante, c'est que lorsqu'une découverte apparaît ainsi, elle apparaît avec d'autres. Comme s'il fallait à la société une certaine maturité, un certain état de réceptivité, pour non seulement s'apercevoir que les choses sont intéressantes, mais les absorber, les récupérer et en faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît le percuteur tendre. Alors, il n'est pas question d'affection, hein, mais il est question du fait qu'au lieu de taper sur un caillou avec un caillou, on tape sur un caillou avec un bout de bois ou avec un bois de cerf, ou avec un bois de renne. Et du coup, on obtient des éclats beaucoup mieux maîtrisés, beaucoup plus petits, et on fait des outils d'autant meilleurs. Et c'est aussi 500 000 ans. Donc il y a une sorte de maturité de la société qui fait qu'elle récupère deux inventions à la fois. Là aussi, donc, il y a un progrès incontestable. Dans une autre facette, qui est la facette spirituelle de l'homme, on voit les crânes de 500 000 ans, donc les squelettes, traités d'une certaine façon après la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait rien, mais il y a par exemple sur les crânes de Chine, des petites marques de découpage au silex, de face et de base du crâne, comme s'il y avait un certain rituel attaché au cadavre et qui était pratiqué en fait sur le squelette, donc après un certain temps de, on peut pas dire d'inhumation parce qu'on ne voit pas d'inhumation, mais un certain temps en tout cas après la mort. Et ça, c'est 500 000 ans. Et autour de 100 000 ans, on trouve de vraies sépultures. 100 000 ans quand même, hein? 100 000 ans. Alors, il ne faut pas dire, il y a 100 000 ans, l'homme enterre ses morts. C'est pas vrai du tout. 100 000 ans, certains hommes, aussi bien d'ailleurs Néandertal que l'homme moderne en Asie, enterrent certains de leurs morts. Il y en a d'autres qui s'en fichent complètement, il y en a d'autres qui les consomment, qui les mangent. On trouve les restes parmi les restes alimentaires, mais il y en a qui sont inhumés, c'est-à-dire qu'on creuse proprement une fosse, on dépose le cadavre, et ce cadavre, on l'accompagne d'un certain nombre d'objets. Et ces objets sont parfois surprenants, puisqu'il a été découvert, par exemple, des pollens tellement agglomérés que l'on pense qu'il s'agissait de fleurs, parce qu'autrement, les pollens auraient été beaucoup plus dispersés. Et les fleurs, comme ça s'est passé à Chanidar en Iran, en Irak, les fleurs ont été retrouvées. Les pollens sont suffisamment caractéristiques pour qu'on retrouve les fleurs la fleur qui a fourni ce genre de pollen. Et c'était, pour votre information, mais je trouve ça très joli, un bouquet bleu et jaune de fleurs qui existent encore aujourd'hui et qui a dû être déposé sur ce cadavre, en l'occurrence d'une cinquantaine de milliers d'années. Donc là aussi, il y a un progrès, et vous voyez bien où je veux en venir. Je veux en venir que lorsque l'on prend suffisamment de distance, lorsqu'on prend une perspective suffisamment importante dans le temps, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un progrès aussi bien dans la technologie que dans la pensée, que dans le niveau symbolique de cette pensée, que dans la conquête des énergies. Et ce progrès, au moins à cette échelle-là, apparaît véritablement sans faiblesse, sans faillir. Il poursuit sa route. Et ça ne va évidemment qu'en devenant de plus en plus extraordinaire et de plus en plus impressionnant, puisque à partir d'une quarantaine de milliers d'années, il y a vraiment projection sur des parois immobilières ou sur des objets mobiliers de certaines de ces pensées, de certains de ces rituels, sous la forme de ces dessins, de ces gravures, de ces peintures que vous connaissez bien, et qui sont en fait une sorte de première écriture. Ensuite apparaît, vers une douzaine de milliers d'années, l'économie de production, c'est-à-dire que au lieu de cueillir, on va semer. On a dit que c'était associé à la sédentarisation. En fait, non. Il semble bien que l'homme se soit arrêté, c'est une façon de parler, hein, parce que le nomadisme préhistorique, il est bien plus compliqué qu'on imagine. Les gens ne sont pas en mouvement comme ça sans arrêt. Mais c'est vrai qu'il y a des constructions de villes, de villages, à partir d'une douzaine de milliers d'années. Et la construction de ces villes, des villages, correspond à une installation pour cueillir, pour mieux cueillir. La transformation du climat, la fin de la dernière glaciation, a entraîné une poussée de graminées importantes, et c'est pour cueillir que l'on s'arrête. Les graminées que l'on récolte dans ces premiers villages sont toutes des graminées sauvages. Et une fois installées pour cueillir, et après avoir cueilli, les gens se sont rendus compte, mais il a fallu des millénaires, se sont rendus compte que, puisqu'ils étaient installés, c'était encore mieux de maîtriser cette cueillette en semant. Et à ce moment-là, on est passé doucement de l'économie de prédation qui avait duré 3 millions d'années, à cette économie de production dans laquelle nous sommes encore. Et on passe donc à bientôt à un autre type d'écriture. Entre les deux, il y a un type d'écriture, moi, un type de niveau de pensée symbolique qui m'intéresse beaucoup. Et je vais raconter cette histoire. Depuis très longtemps, on a trouvé dans des sites archéologiques d'une douzaine de milliers d'années, hein, douzaine de milliers d'années, des jetons. Et quand on regarde les cahiers des fouilleurs, aussi bien des fouilleurs des bords de l'Indus que des fouilleurs du Moyen-Orient, que des fouilleurs qui ont travaillé en Égypte et jusqu'au Soudan, jusqu'au Nil, dans les cahiers de fouilles, on voit jetons. Alors ceux qui étaient plus précis mettaient 2 cubes et 3 parallélépipèdes en argile. Et puis un beau jour, on a trouvé des bulles d'argile qui sonnaient. Et ça a été installé dans les musées comme sonnette, cloche, grelot. Et puis, un beau jour, je suppose qu'un conservateur maladroit, ça existe, a cassé une de ces bulles. Et dans la bulle, il y avait des jetons. Alors on s'est dit qu'il y avait donc un lien entre les jetons qui étaient si souvent mentionnés et puis ces bulles. Et finalement, on a imaginé que les bulles représentaient des symboles, les jetons représentaient des symboles, que chaque type de jeton représentait peut-être une unité de mesure, et que la bulle construite autour et qui était envoyée en même temps qu'une livraison représentait comment on appelle ça, une lettre de connaissement, une facture accompagnant la livraison de quelque chose. Par exemple, je ne sais pas quoi moi, un petit cube pour la centaine, trois sphères pour des dizaines et 4 parallélépipèdes pour des unités, ça fait 134 moutons que je vous envoie, et je mets ça dans une bulle. Et ça a duré un certain temps, jusqu'à ce que les gens aient l'idée d'inscrire sur la bulle ce qu'il y avait dedans. Et à ce moment-là, marqué sur la bulle, je reprends mon exemple. Il y avait par exemple en imprimant sur de l'argile qui n'est pas cuite, il y avait par exemple un petit carré, il y avait par exemple trois cercles, et il y avait par exemple quatre rectangles. Donc il y avait écrit dessus ce qu'il y avait dedans. Et puis au bout d'un certain temps, ces gens se sont rendus compte que c'était stupide de dire deux fois la même chose, et les bulles en 3 dimensions sont devenues des tablettes. Belle mon histoire. C'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais en tout cas, sur tous les sites de 12 000 ans, on trouve des jetons et des bulles, et à partir de 10 000 ans, des bulles qui ont la marque à leur surface de leur contenu, et puis on arrive au système des tablettes, et un certain nombre de ces marques se retrouvent dans les toutes premières écritures. Bon, voilà donc un peu l'histoire somptueuse de notre espèce. Alors, c'est encore une raison de la préhistoire, c'est d'avoir fabriqué ainsi cette histoire, d'avoir reconstitué cette histoire étonnante. Et je voulais vous parler encore à propos de cette connaissance, de ce que j'appelle le projet. Moi, ça me frappe beaucoup. Parce que finalement, le projet, c'est le progrès. Je veux dire que le bonhomme qui, il y a 2 millions et demi, 3 millions d'années, tape sur son caillou. Il va changer la forme du caillou sur lequel il a tapé pour s'en servir. Et je pense que, sans le savoir, mais qu'il a dû s'en servir de manière quasi immédiate. S'il a fait ça, c'est pour s'en servir tout de suite, pour s'en servir dans l'heure qui suivait, mais sûrement pas dans les semaines d'après. Celui qui, il y a 500 000 ans, fait son biface, il va à la carrière, il rapporte la matière première, il taille son biface, peut-être d'ailleurs qu'il le taille à la carrière, et il le taille joliment. Il le taille pour que le biface soit efficace. Il choisit d'ailleurs parfois la couleur. Quelquefois, il y a des matériaux qui ont des couleurs différentes. La couleur à nos yeux la plus agréable est précisément celle qui a été choisie alors que l'efficacité de plusieurs matériaux est apparemment la même.